La fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de l'autre amant. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassily Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Cette saison avec Museum Side, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions qui valent le coup d'œil ou celles qui au contraire sont un peu décevantes. Le principe, deux expositions à l'affiche dans de grands musées parisiens sur lesquelles nous débattrons avec à chaque fois un invité spécialiste qui nous donnera des clés de compréhension. Sans oublier les chroniques qui pimenteront l'émission, Marie-Hélène nous parlera d'actualités culturelles, Charlotte de beaux livres d'art et Marion nous présentera chaque mois une exposition littéraire qui l'a touchée. L'équipe est presque au complet mais je n'ai pas encore présenté Agathe qui m'aidera à décrypter notre invité et à commenter les expositions. Elle nous proposera également de temps en temps d'évoquer des collections permanentes, parfois négligées. Et bien sûr pour finir nos coups de cœur du moment chaque mois pour remplir vos agendas, salut les filles.
Salut.
Bonsoir.
Bonjour.
Ces petites cornes que Miro réinvente avec leur incroyable puissance onirique sont en train de créer dans votre jardin un rapport qui n'a jamais été créé.
Bah, je crois que c'est clair, hein.
Quoi, c'est clair?
C'est un phallus.
Tu vois un phallus, là?
Ah oui, très bien.
Là, tu vois un phallus,
ah,
là?
Ah oui, c'est évident, vraiment. Regarde, là, c'est le sexe de la femme, tu vois?
Ah oui.
C'est magnifique. Ouais.
J'aime énormément celui-là.
Le tout petit ?
J'en suis folle.
Ce soir, pour la première de Museum Side, notre regard se porte donc sur l'exposition de Morgan Chimber, Six Soleils, au MacVal, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Et c'est Morgan Chimber elle-même qui a accepté de venir discuter avec nous de son installation monumentale assez fascinante. Et en deuxième partie d'émission, nous évoquerons l'exposition Audelaire, Monet et Munch, peindre l'impossible au musée Marmottan-Monet.
Je comprends pas ce que je vois.
Mais commençons tout de suite par un petit point sur l'actualité culturelle de Marie-Hélène Gallet. Salut Marie-Hélène.
Salut. Et on commence par une bonne nouvelle. Deux tableaux de Van Gogh qui avaient été volés à Amsterdam en 2002 ont été retrouvés en Italie. Un avis de recherche international avait été lancé pour ces deux toiles qui valent plusieurs millions d'euros. La police italienne a fait la découverte dans la maison d'un trafiquant de drogue et malgré quelques détériorations, les tableaux seraient toujours en assez bonnes conditions. À Paris, un musée numérique immersif sera inauguré en 2018. Il sera aménagé dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement et s'appellera l'Atelier des Lumières. Des œuvres seront projetées en grand format et en musique et les premières expositions mettront à l'honneur Klimt, Chagall et Picasso.
Alors du côté de Lyon, la situation semble se compliquer un peu pour le musée des Confluences. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ?
Oui, tout à fait. Le département du Rhône ne financera plus le musée des Confluences à partir de 2017. Il était pourtant à l'origine de sa création. C'est une décision que son président Christophe Guillotot a notamment justifiée par la nécessité de faire des économies budgétaires. En 2016, la participation du département a atteint 1,2 million d'euros. Et pour terminer, le Centre Pompidou accueille en ce moment 250 œuvres d'art moderne et contemporain russe. Il s'agit d'une donation de collectionneurs, d'artistes ou d'héritiers qui est estimée à 6 millions d'euros. Le but est de mieux faire connaître l'art russe à l'international. Vous pourrez donc découvrir pas moins de 65 artistes jusqu'au 27 mars.
Ça vibre. Ça gronde dans la nef. Il fait chaud. Les soleils scintillent entre les moucharabiais et les murs de briques. Il y en a six, six lumières artificielles qui jouent avec l'éclat naturel des grandes baies vitrées. Des tapis jonchent le sol. Ils sont doux. Ils ont la couleur du sable. Il est partout, ce sable. Sur une forme, pliée sur le sol, dans les briques triangulaires et rondes, dans le vase qui pend, et même dans ces boules de verre disséminées alentour. Au centre, un miroir rond, soleil lumineux d'un côté et noir de l'autre. Les recoins cachent des petits trésors, ici une aile brûlée avec quelques plumes par terre, un diamant qui la surplombe, là des pellicules sur une étagère ou encore une équation. Au milieu, un îlot avec un livre et quelques briques. Depuis le 17 septembre, Morgan Chimber a investi une salle du musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le MacVal, avec son installation Six Soleils. Et ce qu'on entendait en tapis sonore, c'est donc l'ambiance dans cette salle, la musique qu'on peut entendre quand on est dans l'installation. Et nous allons en discuter ce soir avec l'artiste elle-même, Morgane, qui a accepté de venir nous en parler. Bonsoir Morgane.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, merci à toi.
Alors, comment tu as envisagé d'occuper cet espace qui s'appelle donc la Nef ? C'est un espace à la fin des collections permanentes et qui est en plus un espace très vaste.
En fait, lorsque j'ai visité cette salle, elle était dans le noir. Et toutes les dernières expositions se déroulaient dans le noir, ce que je trouvais très étrange pour une nef qui a des grandes baies vitrées, qui avait été complètement obturée. Et en fait, une exposition, c'est toujours finalement une histoire de sous-exposition ou de surexposition. Et j'ai décidé, tout d'abord, je me suis dit que j'allais remettre la lumière dans cette grande nef. Et je me suis dit aussi, mais finalement, est-ce que je ne devrais pas travailler cette matière qu'est la lumière, puisqu'elle s'inscrit toujours dans une exposition, mais on n'y prête pas tant que ça, attention. Donc, j'ai commencé par enlever tous ces films sur ces grandes vitres. Et puis, j'ai aussi transformé le sol. Parce que le sol, normalement, il est marron, comme dans les autres salles, avec un parquet. Et cette salle paraissait très, très étroite. Et j'ai demandé à Alexia, la directrice, si je pouvais recouvrir ce sol d'un autre sol qui serait très, très blanc. Donc ça a complètement déjà changé la dimension de cette salle et qui a pris, du coup, je trouve, son vrai sens quant à ce terme nef qui venait s'inscrire comme ça dans cet espace.
Et je te coupe. Mais du coup, Agathe, toi, tu as peut-être une question ?
C'était très clair en fait. Je me demandais comment était née l'idée de cette œuvre. Et au final, vous racontez que c'est né des contraintes du lieu en quelque sorte.
En fait, c'est vrai que Carl André, il utilise trois vecteurs que je trouve assez justes pour définir une œuvre d'art. Il dit subjectivité individuelle plus objectivité matérielle plus ressources économiques égale œuvre d'art. Et je trouve que c'est assez bien parce que finalement, on ne fait pas d'œuvre sans paramètres et sans contraintes. Et finalement, les contraintes deviennent presque une matière intrinsèque à l'œuvre, comme ça, qui va la délimiter et la déterminer. Et ensuite, c'est vrai que j'utilise souvent des briques qui transforment les espaces, qui modifient. Et puis, j'ai quand même un petit côté féministe. Et à force d'utiliser ces briques, en ayant fait pas mal de recherches, je me suis rendu compte que, évidemment, jusqu'au siècle dernier, les femmes n'avaient pas beaucoup de pouvoir dans ces domaines de construction, etc. Et qu'il n'y avait pas de briques faites par une femme. Et il y avait uniquement les cuisses des femmes qui ont servi à mouler les tuiles rouges, vous voyez. En fait, c'était moulé sur les cuisses des femmes.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et je me suis dit, mais si je faisais une brique, elle serait comment, etc. Et finalement, ces formes triangulaires que j'ai dessinées, ouvertes. Et parce que souvent aussi, on a toujours tendance dans notre culture à mettre en opposition les éléments comme l'ombre et la lumière, etc. Et finalement, pour moi, ces choses ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Donc, j'avais envie de les réunir, en fait, réunir des termes que souvent dans notre culture, on oppose. Et par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'aile de cet oiseau qui est en carbone, en fait, enfin qui est devenu du carbone noir.
Est-ce que tu peux réexpliquer justement, du coup, cette aile
Alors, cette aile est suspendue. C'est une aile, d'aigle au départ, hein, que j'ai brûlée, qui est suspendue assez bas, dans un petit. On pourrait dire que. Il y a en fait un petit enclos, en fait. Il y a une forme de mur. Alors, ces murs sont très particuliers aussi, puisqu'en fait, déjà, les croisements des murs, comment ils se rencontrent, c'est visible, parce que toujours dans mon système de fabrication de mes œuvres, tout est visible, dans la construction. Donc, lorsque ces deux murs se rencontrent, on voit l'imbrication des briques l'une dans l'autre, comment ces deux murs se rencontrent. Et en plus, ce mur-là, il est très particulier, puisqu'il y a un double mur qui glisse sur un autre mur. Donc, il y a une double épaisseur à un moment qui finit en une épaisseur, etc. Donc, bon, je ne sais pas si c'est très, très visuel ce que je raconte. Mais...
Et est-ce que c'est lié aussi à la forme du triangle dans tes briques? Il y a donc un triangle et parfois un cercle au milieu aussi.
Oui. Pas dans ce mur-là. Ce mur-là, il est fait que de triangles. Mais le premier mur... Ce qui est aussi amusant dans cette salle, c'est qu'on peut rentrer par plusieurs espaces. Donc finalement, on peut voir l'exposition dans différents sens. Mais ce mur-là, il n'est fait que de triangles. Alors il y a deux particularités dont on ne peut pas se rendre compte comme ça au premier abord. Mais en fait, tous les matériaux sont photosensibles. C'est-à-dire que les mousses roses qui sont au mur et au sol changent de couleur au fur et à mesure de l'exposition. Et les briques aussi, en fait, s'insolent. Et on peut voir justement sur ce mur-là des briques qui sont jaunes, beaucoup plus jaunes que les autres. En fait, je les ai laissées au soleil dehors et j'avais disposé également d'autres briques sur elles, ce qui fait un peu comme des photogrammes à la Molinagui, où on voit des empreintes blanches sur des jaunes. Donc, en fait, c'est comme si ce mur était photosensible et comme une émulsion photographique, en fait. Et du coup, toutes ces matières, comme notre propre peau, s'insolent au fur et à mesure de cette exposition.
Et alors, justement, pour les matériaux, donc c'est intéressant. Intéressant parce que donc il y a cette mousse, il y a cette brique donc que tu as créée.
Mmh.
Ouais. C'est quoi exactement?
Alors c'est du sable, c'est juste du sable à 99%. Après il y a un liant qui est fait avec de l'huile de tournesol. C'est assez drôle parce que le tournesol c'est la fleur qui se tourne vers le soleil aussi. Et en fait il y a cette aile d'oiseau pour y oui. revenir. Qui est devenue du carbone puisqu'elle est brûlée. Et en fait, le carbone, c'est ce qui compose ton corps, ce qui est le premier élément qui arrive sur notre Terre pour créer des êtres vivants, des cellules, etc. Nos os sont composés de carbone, etc. Et ce carbone, c'est la matière qui absorbe le plus la lumière. Et le diamant, c'est du carbone. C'est exactement la même matière que cette aile d'oiseau. Et en même temps, ce diamant, il réfléchit la lumière entièrement, il la diffracte dans tout l'espace et il est d'une transparence absolue. Donc il y a aussi comme ça des résonances entre les formes, les matériaux. Et le sable n'est pas l'opposé du carbone, mais sa complémentaire. Alors ce qui était drôle, c'est qu'il y a un astrophysicien, astronome Daniel Kuhn, avec qui on a fait une conférence, une journée au Magval, et c'est lui qui racontait ça, que le sable avait, la silice en fait, avait des propriétés quasiment similaires et qu'on pouvait imaginer sur une autre planète. Peut-être avec d'autres conditions météorologiques, enfin voilà, peut-être pas la même température, etc. Mais que ce sable, finalement, évolue de la même manière que le carbone a évolué sur notre planète.
Donc il y a toute une dimension, au final, de temporalité qui va lier tous ces éléments ensemble avec cette idée de trace.
Exactement, et d'où ce sablier qui en vert, comme ça. Alors, le vert, c'est du sable aussi, donc il y a tout un jeu aussi sur les états de la matière, puisque... Voilà, le sable, c'est du verre. Le verre, c'est du sable à différents...
Il y a aussi les boules de verre.
Il y a les boules de verre qui contiennent de la poussière et qui sont comme ça à la limite de l'implosion, qui renvoient à une forme de galaxie comme ça, d'univers prêt à imploser, qui serait presque de l'ordre du Big Bang comme ça. Et puis, il y a ce sablier où, en fait, on ne peut pas le percevoir, mais il y a quelques grains de sable qui tombent tous les jours. Alors, est-ce qu'on tombe au bon moment ou pas. Et au sol, il y a une forme en mousse rose avec des plis qui renvoie à cette idée du temps qui n'est pas linéaire du tout, mais qui a un univers chiffonné, qui a des fuites avec des pertes, des temps parallèles. Et puis c'est un temps de la sédimentation dont on, auquel on n'a pas accès. C'est-à-dire que le verre, par exemple, on sait qu'il coule en permanence. C'est pour ça que, dans les, par exemple, dans les cathédrales, on peut voir le verre qui est un peu trouble, comme ça, avec des vaguelettes. C'est parce que ce verre, il coule en permanence. Même votre verre dans lequel vous buvez, il est en état permanent, en mouvement. Seulement, nous ne vivons pas assez longtemps pour le percevoir. Mais il est en... Voilà, il coule, comme ce sablier coule, un temps qui n'est pas accessible. Et comme le temps aussi du sable, quand il se sédimente, le sable peut devenir pierre. Il y a comme ça aussi des jeux entre le fait que nous-mêmes, on peut finir en forme de diamant aujourd'hui. On sait que... Moi, j'aime beaucoup cette idée, en fait. Ça m'amuse beaucoup de... C'est vaste communicant, c'est-à-dire qu'on commence pierre dans notre histoire si on remonte le temps comme ça, et on peut finir pierre. Et c'est drôle aussi que des gens aient pensé que ça se développe beaucoup en Suisse, mais voilà, c'est, si vous mourrez, vous pouvez demander, vous donner vos cendres et vous pouvez devenir plus exactement un diamant. Et donc voilà, il y a plusieurs cycles dans cette exposition. Il y a beaucoup de jeux aussi de optique qui se passe
avec les soleils, justement. Pourquoi aussi, six soleils?
Alors en fait,
c'est la chaleur qui ressort l'Orient.
Alors en fait, dans le discours de la méthode de Descartes, il y a un chapitre qui s'appelle les météores, et la table des matières est très très belle. Ce sont des questions. Mais ces questions qui sont de l'ordre de la physique renvoient complètement à des questions métaphysiques. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Quand je manipule les matériaux, en fait, je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de questions qui me sont de l'ordre de la métaphysique que je peux développer dans des formes physiques. Et par exemple, dans ces questions, il dit parfois il tonne sans lumière, ou parfois il y a de la lumière sans tonner. Et je trouve qu'on peut très bien ramener ça à nous-mêmes et penser par rapport à des événements qui se passent dans notre propre vie, qu'effectivement, parfois, il y a des choses qui font beaucoup de bruit, mais qui n'apportent pas une lumière ou quelque chose, voilà, ou inversement. Et à un moment donné, il parle du soleil, et il dit, on peut voir jusqu'à six soleils. Et il dit, on peut le premier directement, les deux seconds par réfraction, et les trois autres par réflexion. Et je trouvais ça très beau, parce qu'en fait, au départ, il y avait une question aussi qui m'intéressait, c'était cette... en fait, lorsqu'on change de langue... bon, moi, mon nom, c'est un nom slave transformé en Allemagne, mais donc j'ai appris l'allemand, parce que mon grand-père parlait allemand. Et en allemand, le soleil, c'est la soleil, c'est die Sonne. Et quand on passe dans une autre langue, en fait, c'est un peu comme une sorte de mythologie, la mythologie qu'on a appris dans notre langue française, notre culture qui s'écroule. Et tout d'un coup, finalement, il n'est absolument pas question du roi soleil, mais le soleil est féminin et la lune masculin. Et j'avais envie au départ d'avoir cette idée que finalement, on pourrait peut-être transformer, comme on transforme notre pensée, peut-être notre langue pourrait aussi évoluer. Il y a un texte d'ailleurs qui est à disponibilité dans ce lieu d'exposition où on peut s'installer et lire.
Au milieu, ouais, voilà, dans l'îlot central.
Voilà, et lire une sorte de nouvelle que j'ai écrite, où d'ailleurs j'enlève les E muets dans notre langue française. Mais c'était aussi pour dire que finalement, ce mot soleil, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la langue anglaise, c'est E sonne. Il y a cette neutralité qui existe et qui permet en fait d'ouvrir notre pensée et de pas la scléroser dans une forme de culture qui est presque ancienne, parce que si je pense qu'aujourd'hui les gens pensent comme ça, voilà, tout le monde voyage, on a une forme de mondialisation qui est en nous maintenant, on parle plusieurs langues et tout. Et donc voilà, donc il y a aussi des questions, voilà, des choses qu'on remet en cause comme ça, et je me dis, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi je ne parlerai pas aussi de tout ça dans mon exposition?
Donc là, c'est mêlé soleil et féminin aussi avec les briques, etc. En fait, il y a plein de petits éléments cachés. Et c'est notamment sur une étagère, il y a des pellicules, c'est ça?
Voilà.
Elles viennent d'où?
Alors, ces pellicules photos, c'est des photos que j'ai faites en Arizona, un jour, dans le désert, un désert qui s'appelle le Painted Desert. Et je me suis perdue ce jour-là. Donc, j'ai insolé ces pellicules photos. J'ai essayé de capturer comme ça la lumière. Et je me suis perdue. Et j'ai été moi-même insolée assez longtemps ce jour-là. Et finalement, bizarrement, après quelques heures de marche, j'ai finalement retrouvé ma voiture. Mais en revenant en France, je n'ai pas développé ces pellicules. Donc, elles ont toujours les photos, enfin, les pellicules sont toujours à l'intérieur de ces pellicules photos qui n'existent quasiment plus sur le marché en plus. Et étrangement, j'avais envie de faire un livre sur cette idée, ces sensations lumineuses que j'avais eues dans le désert. Et j'ai fait ce livre donc, qui est au sol, qui est aussi à la. Voilà, qu'on peut regarder. Et étrangement, 2 ans après, je tombe sur le texte de Georges Didier Huberman qui s'appelle « Celui qui a inventé le mot photographier ». Et là, je tombe des nues puisque cet homme qui a réellement existé 2 siècles avant Jésus-Christ décrit qu'il veut être lui-même insolé par la lumière, par le soleil. Il invente le mot photographier qui est un mot grec en fait. Et il ne veut pas faire image, mais il veut finalement... insoler, imprimer cette sensation physique de la lumière. Et c'était exactement finalement ce qui s'était passé pour moi dans ce désert, de ne pas avoir développé ces photos et donc de ne pas vouloir faire image, mais de vouloir avoir un livre qui renvoie directement à cette lumière. Donc j'étais... Enfin voilà, c'est aussi des liens comme ça. Et puis du coup, j'aimais bien l'idée, puisque cette exposition joue sur cette surexposition, sous-exposition, donc ces photos... qui ont été insolées, mais qui finalement qui sont sous-exposées parce qu'elles ne sont pas développées.
Est-ce qu'elles étaient en noir et blanc, ces photos, ou en couleur ?
Elles sont en couleur. Et ce qui est drôle aussi, c'est que le nom de cette pellicule photo s'appelle Gold. Donc, enfin, voilà, il y a plein de jeux. Donc, il y a cette ligne jaune comme ça, qui est assez haute. Donc, on ne voit pas au premier
coup
d'œil. Oui,
on voit vraiment que si on regarde... très attentivement.
Voilà. Oui, il y a des petits signes comme ça dans cette exposition qui fonctionne. Ces expositions, c'est vraiment une promenade. J'aimerais que les gens se promènent comme ça et prennent leur temps. C'est pour ça que j'avais envie, finalement, le spectateur est au centre de cette exposition. C'est lui qui fait heure. C'est pour
il
ça
peut
que,
toucher, il peut s'asseoir.
C'est pour ça qu'il y a cet élément au sol où il peut s'allonger complètement. J'ai mis ces briques aussi. C'était important pour moi que ces briques existe et soit dans l'exposition seul, c'est-à-dire un peu comme un être humain quand il est seul, et puis cette idée du groupe et de ce mur qui se construit qui est aussi pour moi évoqué ces cellules comme ça, comme un épiderme qui grandit comme un tissu, mais qu'elle existe aussi seule et que finalement le spectateur puisse la prendre dans les mains, la manipuler, toucher cette matière. Souvent on me dit dans mes expositions que les gens ont envie de toucher les œuvres. Moi ça me plaît bien en fait, donc là je leur ai mis des éléments exprès pour ça.
Ils peuvent donc consulter ce livre qui est assez étonnant au final, parce que ce sont des couleurs imprimées, mais de façon pas forcément homogène, c'est pas forcément uniforme, il y a des variations de lumière et de temps en temps une ligne d'horizon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet ouvrage ?
Alors ce qui est drôle, c'est que finalement, en revenant d'Arizona, on m'offre un appareil, les premiers appareils numériques, et ce qui est incroyable finalement, c'est qu'avec un appareil argentique, on ne peut pas prendre le soleil en photo. C'est la seule chose qu'on ne peut pas prendre en photo, puisque à ce moment-là, on brûle l'intérieur de l'appareil photo et on se retrouve avec un rond noir comme on se brûlerait l'œil en fait, nous-mêmes on ne peut pas regarder le soleil. Et donc la seule chose que j'avais envie de faire finalement avec cet appareil numérique, c'est qu'on peut prendre le soleil en photo puisque ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et donc je me suis retrouvée avec cet appareil et du coup j'ai décidé de faire cette série. J'ai jamais rien photographié d'autre avec un appareil numérique, mais j'ai photographié le soleil et dans plein de conditions différentes, ce qui m'a donné toute cette série avec ses degrés.
Des biographies.
Voilà, ouais. Exactement.
D'accord, c'est super intéressant. Je voulais vous demander aussi, parce que vous portez un soin particulier aux publications autour de votre œuvre, notamment à travers
Tabou,
un très bel ouvrage
Tabou qui est ici,
qui était publié en 2007. On voit que vous
2015,
que vous faites un vrai travail autour de cette publication, c'est un vrai projet créatif. Comment vous envisagez en fait de restituer vos œuvres ? Est-ce que vous pensez à un ouvrage Comment vous pensez déjà conserver l'image d'une œuvre, si c'est possible, et comment vous l'intégrez de façon dynamique dans votre démarche d'artiste?
Ben c'est vrai que c'est compliqué hein, d'essayer de transmettre, surtout quand c'est de l'ordre de la sculpture. Alors c'est vrai que ce livre tabou, il commence par une œuvre qui n'existe que dans le catalogue. Quand on ouvre le livre, il y a un rose, et sur ce rose...
Absolument.
Voilà, il y a marqué « Separate while open and in contact while close », et qui ramène pour moi à cette... D'abord, à de l'ordre de la sculpture, parce que finalement, un livre, c'est aussi de la sculpture. Ça peut être un lieu d'exposition. Et le fait que, effectivement, ces pages qui s'ouvrent et donc qui sont séparées lorsque le livre est ouvert et en contact quand le livre est fermé, voilà. Déjà, pour moi, ce mouvement est de l'ordre de la sculpture et ramène à quelque chose de très, très tactile, en fait, qui est très proche de moi dans mon travail. Ensuite, ce livre, il commence avec une série de photos qui sont des photos que je fais comme des notebooks. Et souvent, il y a beaucoup de curateurs qui voulaient présenter ces photos pour des expositions, mais je ne les ai jamais imprimées. Donc, je leur dis toujours, OK, on peut les projeter de manière immatérielle, mais je ne veux pas qu'elles existent. Mais comme elles ont énormément intéressé de personnes, finalement, Quentin Bajac du MoMA de New York a finalement écrit sur ces images. Et je me trouvais intéressant que les gens commencent par rentrer par ces notes photographiques qui nourrissent mon travail et que je prends en permanence dans tous les pays que je traverse. Ensuite, il y a des playlists musicales. J'aime beaucoup l'idée que dans 100 ans, les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle écoutait ?» Qu'est-ce que c'est que ce groupe là?
Enfin, ça m'a. C'est un tout quoi finalement. Le livre est un tout avec des photos,
avec du son. Ouais. Et voilà, on peut tout d'un coup se dire, ben tiens, elle écoute. Voilà, parce que effectivement, souvent, comme dans cette exposition là, il y a un son qui a été, enfin une musique, enfin une ambiance sonore qui a été faite par un ami qui s'appelle Fred Léonard. Et en fait, qui reprend les thèses de Chalny, qui était les découvertes où on mettait encore une fois sur une plaque de verre du sable et on envoyait une fréquence sonore où avec un archet on donnait une vibration comme ça sur la plaque et tout d'un coup se dessinait une forme géométrique. Le sable se déplace grâce à la vibration et tout d'un coup ça renvoie des formes géométriques assez primaires, des sortes de cercles, des sortes de triangles comme ça. Et en fait, avec tous ces motifs qui se sont développés dans mon exposition avec ces cercles et ces triangles, il a repris ce même principe et il a développé comme ça une bande sonore donc qui est vraiment liée de manière intrinsèque au mur de l'exposition. D'accord.
Et c'est vrai d'ailleurs que pour revenir à l'exposition, moi ce qui m'a frappée, parce que j'ai donc lu Tabou, j'ai vu que vous aviez déjà détourné la brique avec ces murs de parpaings qui étaient... fait en fait entre chaque brique
un
mortier coloré voilà et que vous aviez présenté aussi bien dans des galeries que dans des lieux publics et donc un travail autour du mur alors que cette fois-ci qui peut paraître aveugle assez statique alors que dans l'exposition on a ces briques ajourées qui donnent une perception de mouvement décuplé et pourtant à chaque fois, sont des délimitations d'espace dans laquelle vous intégrez après un nouvel élément. Et c'est ça qui m'intéressait particulièrement et que j'ai retrouvé en ouvrant ce livre, cette idée d'avoir le contre-pied en permanence de ce que vous inventez. On a l'impression que vous travaillez tout le temps sur des paradoxes, au final.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, j'aime beaucoup me remettre en question en permanence et que le doute, c'est vraiment mon ami. J'ai l'impression que... les personnes pourraient avoir peur de douter. Moi, j'adore ça. J'aime l'idée de douter en permanence et de me remettre en question et de remettre tout sur table en permanence et d'essayer de voir les choses sous un autre œil ou avec un autre angle, comme si je me décalais un petit peu à gauche ou un petit peu à droite ou un petit peu dessus ou dessous. Et que, voilà, qu'on puisse changer de position et d'axe et que aussi comment dire peut-être que je sais pas que les voilà que Oui, que tout doit être mis en question en permanence, en tout cas. Ça, c'est
et
sûr.
Tu le fais beaucoup aussi au niveau des matériaux. Tu, tu testes en permanence des éléments qui ne peuvent pas se mélanger.
Oui, mon atelier, c'est vraiment un laboratoire où mon four céramique explose régulièrement. Parce qu'effectivement, en fait, il y a aussi ce côté aussi de désapprendre, par exemple. Parce que c'est un peu la même chose de l'ordre du langage. On nous donne un moule. Il est aussi beaucoup question de moule dans mon travail. Parce que, par exemple, ce sable, cette technique de sable, en fait, au départ, je l'ai observé, ça sert à faire des noyaux. Ce sont des moules qu'on utilise en fonderie. Et finalement, je me suis dit, mais si j'inversais le processus, c'est que j'utilisais cette technique pour ne pas faire le moule, mais le positif. Et quand je souffle, par exemple, une bubble, une pièce en verre sur une contreforme, finalement, la pièce en verre est déterminée par la contreforme, ou la corde autour de cette pièce en terre, c'est elle qui va déterminer finalement la forme de la terre, etc. Donc il y a beaucoup cette histoire de moule. Et je n'ai perdu de...
Non, c'est la production
juste... Comment on produit une œuvre dans un atelier d'artiste?
Oui, non, mais on était parti sur les moules, mais on venait juste avant de dire quelque chose.
Tu aimes bien mélanger les matériaux qui...
Ouais, il y avait
les tester.
Ça. Les tester, mais c'était pas exact. Je me souviens plus de quoi on est parti exactement, mais oui.
Détournement de la fonction.
Oui, du détournement de la fonction, ouais, c'était plutôt ça. Et aussi des moules, finalement, culturels ou dans lesquels on nous place. Par exemple, lorsque j'ai appris à souffler le verre, tout au départ, en fait, effectivement, j'ai appris tout ça, mais je faisais réellement ce que... Bon, c'est pas vrai, je faisais pas exactement ce qu'on faisait, puisqu'en fait, personne voulait souffler mes pièces en verre, et du coup, c'est pour ça que j'ai appris à souffler, puisque aucun verrier voulait le faire en me disant que tout allait casser, que ça allait pas fonctionner, etc. Donc, j'ai appris toute seule.
Et la plupart des tests, tu les fais toi-même, finalement, ouais. T'apprends toutes tes techniques.
J'ai appris avec un monsieur comme ça, en Bourgogne, mais après, par exemple, pour l'histoire du parachèvement des pièces, c'est-à-dire pour pas qu'elles soient coupantes, on les parachève, etc. Et pendant 2 ans, ce qu'on m'avait appris au niveau du parachèvement, j'ai parachevé mes pièces. Voilà. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de parachever mes pièces. Pourquoi je le fais? Voilà. Et c'est toute cette histoire de voilà, comment on apprend des choses, parce que c'est nécessaire d'apprendre, et après, comment on désapprend. Enfin, moi, j'essaye voilà, en permanence de désapprendre. Par exemple, à l'école, on m'a appris qu'il ne fallait pas superposer la peinture à l'huile et la peinture à l'eau. Mais un jour, voilà, dans ce catalogue, on peut voir...
Avec les rouleaux.
Voilà, avec ces rolls, là, où finalement, j'ai fabriqué une machine avec des rouleaux, où j'avais disposé sur un rouleau de la peinture à l'huile, sur l'autre rouleau de la peinture à l'eau. J'ai tourné comme ça, et donc, effectivement, je savais bien que ça n'allait pas créer une troisième couleur, mais qu'est-ce qui allait se passer? En fait, les matières ont glissé l'une sur l'autre, se sont réparties comme des territoires, etc. Donc, c'est à un moment donné, comment... Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça, ou qu'est-ce que voilà, de repousser sans arrêt ce qu'on l'a intégré, et à un moment donné il faut s'en séparer, il faut ouvrir et se poser des vraies questions. Pourquoi on fait ça et dans quel but, et est-ce que ça a un vrai sens par rapport à notre travail, par rapport à notre vision du monde, et comment on essaye après d'abattre un peu tous ces moules dans lesquels on est pour en sortir. Et c'est exactement le même par rapport à la langue, en fait.
Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on compare pas, enfin, on voit dans tes œuvres un peu l'influence du minimalisme, mais toi, la différence, c'est quand même que tu laisses visible...
Le système de fabrication.
Exactement. Contrairement à Donald Judd.
Tout à fait. Mais en fait, un jour, je m'étais rendu compte que ce qui me plaisait dans les pièces de Judd, c'est quand il avait oublié quelque chose. Parce que, bon, il fait très attention à ses pièces. Mais finalement... Ils n'étaient pas encore... je crois que c'est vraiment aujourd'hui qu'on est... Mais je crois que ça va vraiment avec l'histoire de la pensée globale, de notre vision à tous aujourd'hui, de cette mondialisation. Mais en fait, il n'avait pas fait attention, par exemple, lorsque ces pièces sont posées à la Dia Foundation, ces formes, ces boxes en bois sont posées sur un sol complètement cassé, un vieux béton abîmé. Or, lui, il n'a pas déterminé ce sol. Par contre, ce rapport est très, très beau. De même que lorsqu'il avait... fait des pièces en métal qui sont comme des sortes de formes qui viennent comme ça.
Les stacks.
Voilà, exactement. il a utilisé un métal qui laisse les empreintes de doigts. Or, John supporte pas ça. Et en fait, moi, ça me plaît beaucoup. Et je me suis rendu compte que tout ce qui lui avait échappé, c'est ce qui me plaisait. Finalement, ce côté inframince qui lui avait échappé me plaisait beaucoup dans cette empreinte, ces empreintes qu'il avait omis. Et effectivement, dans le système de fabrication, il y a... Lorsqu'on fait les pièces nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a une vraie poésie. Lorsqu'on soude, par exemple, l'arc et l'acier, lorsqu'ils se rencontrent, créent une troisième substance qui s'appelle la laitance noire. Moi, quand ce que j'ai vu cette laitance noire, je ne pouvais absolument pas l'effacer.
Oui, il y avait une dimension émotionnelle qui se rajoute au final.
Peut-être l'heure tourne, mais du coup, peut-être une dernière question, Morgane.
Oui, moi, je voulais vous demander quelle exposition vous recommanderiez aux auditeurs.
À voir en ce moment.
Oui.
À part la tienne, qu'évidemment, ils vont courir à les voir.
Parce que j'ai pas eu le temps de voir beaucoup d'expositions, tellement je suis débordée en ce moment. Qu'est-ce que j'ai vu de bien Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a une émission, il y a une exposition d'Émilie Renard dans l'atelier de Nel Baloufa.
D'accord.
Voilà, à voir, une exposition collective. Voilà, pour un peu déplacer et aller dans un lieu un peu underground que les gens ne connaissent pas vraiment, voilà.
D'accord, merci beaucoup Morgane.
Merci à vous.
Merci, c'était passionnant.
Merci, à bientôt.
Et alors tout de suite, on écoute le groupe Her que Radio Campus a reçu récemment et leur single 5 Minutes.
All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. Start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses following courses. And again, kisses following courses like a butterfly effect. One dip of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket. The love don't spend. All I need is 5 minutes. One hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket, the love don't spend. All I need is 5 minutes. 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 All I need is 5 minutes.
5 minutes.
Alors c'est l'heure maintenant de la chronique de Marion, qui nous présentera chaque mois une exposition littéraire. Alors qu'est-ce que tu es allée voir cette fois-ci, Marion ?
Bonsoir, alors je suis allée voir l'exposition Oscar Wilde, l'impertinent absolu au Petit Palais. Donc pour la première fois en France, nous pouvons profiter d'une exposition sur cet écrivain et dandy irlandais le plus connu qui soit. Du brillant étudiant au Trinity College jusqu'à l'exilé en France, en passant par le critique d'art et le peintre, le conférencier et l'écrivain mondain, le père et l'amoureux, le dénonciateur et l'écorché, c'est à travers un parcours chronologique que plus de 200 œuvres et documents variés dressent le portrait complexe d'un artiste aux multiples facettes. L'on chemine et l'on s'arrête sur des aphorismes éparpillés ici ou là. La pénombre, les murs pourpres et prunes et l'ambiance feutrée permettent une rencontre intime avec cet auteur qui a des choses à nous dire sur l'art, mais aussi sur la liberté, la défense des droits humains et la nécessité de remettre en cause la norme. À ce propos, je vous laisse avec une réflexion de Wilde qui mérite que l'on s'y arrête. Une bonne réputation, c'est une des nombreuses contrariétés à laquelle je n'ai jamais été soumise jusqu'au 15 janvier, au Petit Palais.
Merci Marion. J'ai repris encore des choses impossibles à faire. De l'eau avec de l'herbe qui ondule dans le fond, c'est à rendre fou que de vouloir faire ça. Et pourtant Monet s'est acharné inlassablement à peindre des séries, ses cathédrales, son jardin. L'exposition Audelaire, Monet et Munch, Peindre l'impossible, présente jusqu'au 22 janvier, au musée Marmottan-Monet, des œuvres de ces trois artistes contemporains, en étudiant leurs motifs fétiches qu'ils vont peindre inlassablement. Les montagnes, pour le Suisse Ferdinand Audelaire, le soleil, pour le Norvégien Edvard Munch, et l'eau, pour Claude Monet. Alors Agathe, je me tourne vers toi. Pourquoi Philippe Dagen, qui est donc le commissaire et fameux critique d'art du Monde, a-t-il voulu rassembler ces trois artistes qui ne se sont jamais rencontrés ?
Bien, c'est une justification en creux du sujet, en fait, que nous donne le commissaire de l'exposition dans le catalogue pour avoir rassemblé ces trois artistes. Alors, l'exposition va reposer sur la possibilité d'une rencontre manquée de ces trois peintres qui sont intéressés au même sujet, à savoir peindre la nature et ses paysages, et plus particulièrement donc la neige, l'eau et le soleil que l'on va retrouver tout au long en fait, de l'exposition.
D'ailleurs, l'exposition est coupée par ces thèmes-là.
Absolument. Et selon Philippe Dagen, cette réunion d'artistes se fonde en fait sur une reconnaissance de points communs qui vont autoriser à les comparer en tenant pour négligeable leurs différences de nationalité et d'âge. En le lisant, on comprend que ce qui lie ces artistes serait une sorte de sociologie commune. C'est-à-dire qu'il explique que tous ces trois artistes viennent à la peinture sans y avoir été préparés par leurs origines sociales, qu'ils accèdent à des connaissances techniques et artistiques grâce à un enseignement développé par les académies d'art, mais que justement, assez jeunes, ils vont tous s'en détacher au risque en fait, d'être mis à l'écart. Et pour chacun des trois artistes, Philippe Dagen va expliquer que c'est le contexte historique qui va leur offrir à chacun la possibilité de s'interroger sur une représentation contemporaine, moderne, picturale. Et très rapidement, la question « comment peindre le monde moderne » va s'imposer à eux. Donc les conséquences en fait, de cette modernité du monde, en quelque sorte, sur leur création, vont être l'invention de nouveaux motifs fondés sur l'observation et la sérialité, selon un schéma qui sera apparenté aux sciences, étant donné qu'il s'agit d'observation attentive de la nature et de multiplication des expériences.
Donc en fait, finalement, la série, ce sera un moyen pour Monet, donc j'ai utilisé une citation de Monet pour commencer l'introduction sur cette exposition, mais en fait, c'est par la série qu'il arrive à peindre l'impossible qui serait les reflets changeants du soleil, les reflets changeants de l'eau ou de la montagne.
C'est-à-dire que la série va permettre de développer un motif sur plusieurs temporalités et donc, de ce fait, proposer quelque chose de novateur.
Et ce que tu disais aussi, peindre le monde moderne, c'est vrai que la modernité, par exemple, le développement des transports et je pense au développement du cinéma et de la photographie, c'est ça, pour le cinéma et la photographie, c'est ça, je pense, qui les a influencés pour les séries. Et pour les transports, c'est ce qui leur permet d'aller peindre en montagne ou d'aller peindre en Norvège pour Monet.
Oui, c'est-à-dire que chacun, en fait, on est aussi dans des temps historiques différents. Pour Audelaire, effectivement, ça va lui permettre d'aller très facilement et avec confort sur les cimes des montagnes. Après, il faut voir aussi que les photographies, justement, de ces montagnes, elles datent déjà des années 1850-1860. Donc ce n'est pas non plus, par ailleurs, un sujet particulièrement neuf ici.
D'accord. Donc, après cette petite introduction, Moi, je vous propose donc qu'on fasse un petit tour de table de vos impressions et en fait qu'on différencie chaque artiste justement dans une approche qui est différente de celle de l'exposition, qui est donc, comme on vient de le voir, une exposition plutôt thématique. Enfin, plutôt thématique. Alors, le plus vieux, si on commence, par Claude Monet, donc c'est le doyen, il est né le 18 novembre 1840. Moi, je trouve que les œuvres présentées sont assez novatrices. On voit notamment les œuvres de la fin de sa vie où il a la cataracte et où, du coup, ses couleurs sont complètement différentes. Je pense, par exemple, à La maison vue du jardin en rose, qui est extrêmement orangée. Par exemple, Marion, je crois que toi, tu as bien aimé ce tableau et il t'a un peu marqué. Marion ou Marie-Hélène, il me semblait que Marie-Hélène, toi aussi... Ce tableau
non, moi, marqué. C'était plutôt la barque qui m'avait marqué. Enfin, c'était mon préféré, mais du coup, si...
Alors moi, j'ai apprécié ce tableau de Monet, notamment parce Marion. Qu'il arrive à la toute fin de l'exposition et qu'il est complètement différent de tout ce qu'on a pu voir, qui était, on va, non pas réaliste, mais en tout cas, on reconnaissait très bien les montagnes. Ou les paysages que les peintres représentaient. Là, la maison du jardin rose de Monet, voilà, c'est ouais. presque abstrait et c'est plus une notion de. Enfin, on ressent plus les choses qu'on ne les voit. C'est ça qui m'intéressait dans ce tableau.
Dans les œuvres retenues concernant Monet, la plupart sont quand même de sa production, viennent d'une époque assez tardive dans sa production. Mm. Donc, on a aussi ici un hommage à l'artiste. Vieillissant
oui.
et qui œuvre toujours dans un contemporain et un renouveau permanent.
Alors il y a aussi, je pense au paysage de neige, parce que il y en a beaucoup. En tout cas Monet, donc il est allé en Norvège pour peindre des paysages de neige. Et il me semble que vous, Marie-Hélène et Charlotte, vous avez préféré justement ces paysages de neige de Monet. Qui veut commencer, Marie-Hélène, Charlotte?
C'est vrai que moi, j'ai bien apprécié ces paysages, car ils sont finalement assez doux, assez éthérés. Et c'est ce que j'aime bien chez Monet, justement, cette manière de suggérer la lumière à travers des couleurs assez pastel, assez subtiles. Mais juste une petite parenthèse sur ces paysages de neige. J'étais assez surprise de ne pas trouver le tableau Lapis de Monet, qui est assez emblématique...
Et il me semble par contre que c'est des tableaux forcément du musée Marmottan Monet.
Partie du fond,
et Lapis, oui. C'était au musée d'Orsay.
Tout à fait, oui, au musée d'Orsay. Parce que justement, bon, effectivement, c'est le musée Marmottan, c'est tout à fait normal, mais je trouvais qu'il avait assez sa place dans cette exposition. Mais, oui. Mais voilà, chez Monet, ce que j'aime dans ces paysages de neige, c'est ce côté brumeux, ces couleurs vraiment qui suggèrent la lumière du soleil, cachée, voilée, etc. Mais
ce qui est intéressant, c'est que ce soit Monet ou Munch, il me semble qu'ils font... En fait, sur la neige, on fait plutôt ressortir les autres couleurs. Par exemple, la maison rouge, ou je vois que pour Munch, il y avait un personnage dans la deuxième salle. Il y a des personnages qui ressortent sur la neige. On fait ressortir la neige en... Je sais pas comment dire, mais... Par contre, en contraire.
En négatif.
En négatif, oui. Voilà, plutôt. Donc ça, c'est intéressant. Et toi, Marie-Hélène?
Oui, exactement comme Charlotte, j'aime beaucoup les effets, la brume. Je trouvais qu'on arrivait vraiment à imaginer le paysage, à se projeter dedans, en fait. Et pour moi, des trois artistes, Monet, j'ai eu le sentiment que c'était celui qui maîtrisait le mieux, en fait, les nuances, les petites pointes de couleurs. J'ai vraiment eu la sensation d'un travail très, très raffiné, très fin. Alors que, par exemple, avec Munch, j'avais plus la sensation d'une peinture... peut-être abrupte, plus brutale, et qui donnait pas du coup les mêmes effets et la même finesse dans les effets, en fait.
Ouais. Ouais.
Une interprétation, c'est toujours forcément quelque chose de personnel, hein, c'est sûr. C'est marrant parce que moi j'ai pensé un peu l'inverse, j'ai trouvé que c'était Audelaire qui renversait tout justement, qui écrasait un peu tout le monde, d'autant plus qu'en fait c'est sa technique qui ressort par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il utilise l'huile, c'est que ce sont que des toiles à l'huile, alors qu'on a l'impression qu'il a utilisé des crayons gras.
Mais d'ailleurs,
à peine.
Audelaire, la différence c'est que lui il a une formation, enfin on voit que son approche est un peu plus topographique, il a une formation auprès du zoologue et géologue Karl Vogt à l'Université de Genève. Et du coup, je trouve qu'on sent que c'est pas non plus... La technique est différente, mais c'est pas non plus la même approche que Monet ou Munch.
Heureusement. Hein. C'est quand même des artistes. Chacun... Et c'est le problème de la comparaison aussi, c'est qu'assez rapidement, au final, on se rend compte que ça ne tient plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que les peintures d'Audelaire paraissent très sèche, alors qu'on a une technique, une utilisation de l'huile qui est très différente des autres, en fait. Et c'est peut-être sur ça qu'on peut un peu comparer, sur comment, quels matériaux ils ont utilisés et quels résultats ils ont abouti. Chez Audelin, on a un premier plan, par exemple, qui va être travaillé par des frottements et qui va donner un effet de matière sans donner une perspective, alors qu'on est normalement dans des glacis qui apportent un peu de profondeur. Et il va amener en fait cette profondeur justement à l'inverse avec un contour des cimes très précis où là on aurait l'impression d'avoir un crayon gras rouge ou bleu à certains endroits qui va apporter cette précision. Donc la netteté vient dans le lointain, ce qui est inverse forcément en fait évidemment de la peinture habituelle qu'on trouve avec cette dimension.
Et puis ça fait un effet incroyable. Enfin, la série de montagnes dans la première salle. Vous en avez pensé quoi d'Audelaire? Les autres, je vois Marion qui me fait un petit signe de tête, ou pas, bon.
Moi j'ai été charmée, c'était, pour moi ça a été la plus belle découverte, je ne connaissais pas ce peintre et j'ai adoré ses paysages, j'avais l'impression d'y être en fait. Là, les peintures, alors je ne me rappelle plus des titres, mais celles où on voyait de la brume et on n'apercevait qu'une petite ligne nette des monts tout en haut, comme si on était au-dessus des nuages. C'était le lac de Thun aussi, je pense. Mais ouais, c'était là, splendide, voilà.
Après, d'y être. C'est vrai qu'Audelaire, il a quand même 26 tableaux dans cette exposition. Munch en a 22 et Monet seulement 12. Donc on peut dire quand même que c'est un peu son sacre. Et ça le replace dans sa juste. C'est le seul en fait qui ne vient pas d'une famille assez riche quoi. Lui, il était orphelin à 14 ans. Il est vraiment d'origine modeste et il a une autre approche. Et pour finir, on n'a pas parlé de Munch. Lui, il est né en Norvège, donc il vient d'une famille aisée. Sa mère descend d'une famille de marchands et son père est médecin militaire. Et il s'attache. C'est pour ça. Je sais plus, il me semble que c'était toi, Marie-Hélène, qui disais que son approche est un peu plus grossière, mais c'est aussi parce qu'il n'était pas non plus dans la même veine, il n'avait pas la même volonté que les autres. Par exemple, quand il essaie de représenter le soleil dans sa toile, le soleil qui date de 1912, on est quand même frappé par des rayons, c'est complètement fou. Et en fait, c'était lié notamment au fait qu'il avait un trouble oculaire à l'œil droit, et un peu comme Monet, sauf que Monet, c'était la cataracte, mais... Vous en avez pensé quoi de ces tableaux? Est-ce que ça vous a touché ou au contraire
Ben moi, quand j'ai vu donc le tableau avec le soleil, j'avais vraiment l'impression d'en prendre plein la vue en voyant ce tableau.
Surtout que c'est la salle aussi où il y a impression soleil levant de Monet et les falaises à Étretat, coucher de soleil sur Étretat.
Donc deux formats quand même aux dimensions très très différentes.
Tout à fait, oui. Alors on a l'œuvre de Munch qui est assez monumentale à côté du tableau qui est plus modeste, on va dire, de Monet. Et Munch, dans sa capacité à peindre les textures, en fait, et à jouer comme ça sur les motifs, on avait vraiment l'impression de contempler l'impossible, en fait, parce que nous, on ne peut pas nous-mêmes regarder le soleil. Et en regardant le tableau, c'est vrai qu'on se retrouve là, quand on est assez près, assez happé par les couleurs, les textures. Et c'est vrai que c'était une approche, du coup, beaucoup plus brutale, ou plus abrupte, disons, dans les traits de pinceau que Monet, où c'est très doux, très, très orangé... très calme en fait.
Agathe,
je trouve qu'on retourne particulièrement bien sur le thème du coup de l'exposition peindre l'impossible.
Tout à fait. Oui.
À travers évidemment le travail des artistes sans lequel ça serait impossible.
Et ainsi la boucle est bouclée. Merci Agathe. L'exposition Audelaire, Monet et Munch peindre l'impossible est donc à voir au musée Marmottan-Monet jusqu'au 22 janvier 2017.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant.
Non, c'est pas aussi simple que ça.
Vous voulez le voir dans le tableau.
Charlotte, je me tourne vers toi. Donc tu nous parles de livres d'art, comme chaque mois, de catalogues. Enfin, tu fouines un peu et tu cherches des catalogues d'expos qui t'intéressent et tu vas voir en même temps l'expo. Donc on parle d'encore plus d'expositions. Et ce soir, qu'est-ce que tu as choisi?
Alors Florence, ce soir, je vais vous parler du catalogue de l'exposition L'œil de Baudelaire, donc une exposition présentée jusqu'au 29 janvier au musée de la vie romantique à Paris. L'œil vif de Baudelaire, nous le rencontrons justement dans la toile d'Émile de Roy, reproduite en ouverture du catalogue. Elle présente un jeune homme de 24 ans, adoptant une posture à la fois fière et désinvolte, celle du critique, tantôt acerbe, tantôt flatteur. Nombreux connaissent Baudelaire poète. Quand on vous demande ce qu'il a écrit, vous répondez les fleurs du mal ou encore le spleen de Paris. Un peu plus rares sont ceux qui mentionneront le peintre de la vie moderne. Une œuvre essentielle pourtant, car le dernier représentant du romantisme s'est introduit sur la scène littéraire par le biais de la critique d'art. Au fil des pages du catalogue, le lecteur suit à nouveau le chemin proposé par l'exposition. Il accompagne Baudelaire dans sa quête du peintre le plus à même d'extraire la beauté d'un monde nouveau et urbain. Il retrouve les toiles d'artistes connus comme Ingres, Manet ou encore Delacroix, ce chef de l'école moderne comme Baudelaire l'appelle dans son salon de 1846. Mais aussi celle de figures secondaires qui auraient probablement été englouties dans le flot de l'histoire sans ses écrits. William Ossoulier, par exemple, et sa Fontaine de Jouvence, qui met en scène des personnages nonchalants savourant leur seconde jeunesse. Peinture mythologique, estampe, caricature? Non. La modernité se cache ailleurs. C'est finalement en la personne du dessinateur Constantin Guy que Baudelaire trouve l'artiste qu'il cherche, avec des silhouettes de petits crieurs de journaux ou des mondains du Second Empire esquissés en très rapide.
Bah, j'étais fixée sur tes lèvres, j'attendais la suite. Bon, merci Charlotte. Alors, on approche de la fin de l'émission. Il est temps de faire notre dernier tour de table, qui est notre tour de table coup de cœur. Alors, dans Museum Side, on va donc essayer chaque mois de vous faire un panorama le plus complet possible des expositions parisiennes ou régionales du moment qui nous ont plu ou qui nous ont déçus. Et on commence par toi, Agathe, ton coup de cœur.
Oui, c'est un coup de cœur assuré pour ce qu'a proposé Olafur Eliasson pour le château de Versailles, à travers 5 œuvres en intérieur et 3 en extérieur, à voir donc jusqu'au 30 octobre. Et Olafur Eliasson revient sur des thèmes dont on a parlé d'ailleurs en première partie de l'émission, autour de la perception du spectateur, la perception du mouvement et par ailleurs le sentiment de soi. Alors il va utiliser notamment l'image reflétée grâce au miroir, la lumière orangée de l'astre solaire, en petit clin d'œil à Louis XIV, et l'eau.
Et surtout, ça fait écho à Morgan Schimber, miroir, soleil.
Absolument.
Tout est bouclé.
Et c'est pour ça qu'il faut absolument aller le voir, d'autant que ce qui est assez intéressant, c'est que le parcours est assez difficile. Les œuvres sont assez difficiles à trouver, au final, à l'intérieur du château.
C'est intéressant ou pas?
Oui, absolument, ah, parce que en fait, elles jouent toutes sur des jeux d'optique et elles peuvent paraître inaperçues. Et donc, le spectateur est en train de, le visiteur, aller chercher l'œuvre et il se retrouve face à lui-même, dans ses images reflétées de lui-même, avec comme invitation à l'introspection beaucoup de touristes autour de lui. Donc, on a toutes ces ambiguïtés, tous ces phénomènes d'éclipse personnelle et visible qui sont assez intéressantes.
Et ça fonctionne.
Absolument.
Bon, alors moi ça me fait rire parce que Marie-Hélène t'a parlé du musée des Confluences et je reviens justement de Lyon et mon coup de cœur porte sur une exposition du musée des Confluences. Donc voilà, ce gros vaisseau entre le Rhône et la Saône. Et ce musée me fascine parce que comme je suis lyonnaise, je l'ai vu évoluer, être en train d'être construit. Et en ce moment, il présente une exposition qui s'appelle Corps Rebelle. Et elle a pour ambition de matérialiser finalement une discipline immatérielle qui est la danse. Et le pari est réussi, elle est construite autour de 6 thématiques. La danse et la virtuosité, la danse et le corps vulnérable. Ensuite, danse et politique, danse et société, danse d'ailleurs. Et puis la dernière partie, Lyon, capitale de la danse, forcément. Et elle donne à voir essentiellement à l'aide de vidéos les créations des plus grands chorégraphes. Donc on se régale devant Dupina Baoche, William Forsyth, Merce Cunningham, Maggie Marin ou encore le lyonnais Mourad Merzouki. Et surtout, on comprend les mouvements, on comprend les intentions. Donc il n'y a que des vidéos, mais on est vraiment plongé dedans et on est au cœur de la création. Et en prime, il y a 6 portraits de personnalités du monde de la danse qui sont proposés à l'aide de vidéos, on les voit même danser. C'est merveilleusement filmé. Et mon petit coup de cœur dans l'exposition, c'est Raymond Hogg. Et en fait, ce danseur dont le corps est déformé par une bosse impose son style et on est conquis par ce corps étrange qui évolue sur scène, souvent tout nu, donc avec sa bosse. Et donc, courez voir cette belle exposition qui est présentée au Musée des Confluences à Lyon jusqu'au 5 mars dans le cadre de la Biennale de la Danse. Et vous pourrez aussi en profiter pour voir l'exposition Antarctica, qui est une plongée sur la banquise avec des pingouins à travers des vidéos de 2 explorateurs. C'est jusqu'au 31 décembre. Donc, ce musée est formidable. Allez-y. Voilà, c'était mon coup de cœur. Marie-Hélène, à toi.
Alors, moi, mon coup de cœur, c'est l'exposition à la Fondation Cartier qui s'appelle « Le Grand Orchestre des Animaux ». Donc en fait, c'est une exposition qui a été fondée sur des questions environnementales. Et donc on a un parcours avec plusieurs artistes internationaux et qui proposent à chaque fois des œuvres variées. On a de la photo, de la peinture, de la vidéo et surtout du sonore en fait, puisque l'œuvre principale de l'exposition, elle se trouve au sous-sol. Elle a été créée par Bernie Krause, qui est aussi un artiste qui a enregistré en fait la faune sauvage pendant une quarantaine d'années. Et donc du coup, en bas au sous-sol, il nous donne à écouter des bruits d'animaux qui ont aujourd'hui disparu. Donc c'est très intéressant et c'est saisissant en fait d'entendre ces chants d'oiseaux qui sont superbes. Et bien des années plus tard, c'est comme si qu'on avait baissé le volume considérablement. On n'entend plus rien, il n'y a plus aucun bruit. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Aussi, le parcours est bien organisé puisqu'on peut se promener entre les peintures, les photos, les vidéos. Au sous-sol, on a plutôt le côté un peu numérique avec beaucoup d'œuvres projetées sur écran, notamment des petites coupes de méduses. Enfin, c'est vraiment très, très numérique, vraiment, et tout plongé dans le noir. Et pour terminer sur Bernie Krause, en fait, ce qui m'avait vraiment marqué dans cette approche d'enregistrement de la nature du monde en train de disparaître, c'est que justement, cette exposition, toutes ces œuvres, il avait prévu de la créer dans le but de faire une archive pour justement enregistrer tout ce monde qui est en train de disparaître.
Oh, c'est beau. Charlotte.
Oui, alors moi, ce qui m'a plu, à force de voir plusieurs expositions, etc. Donc je retiens plutôt celle de Magritte au Centre Pompidou. Donc ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est une exposition dans 5-6 salles, donc qui est assez rapide, même s'il y a beaucoup d'œuvres présentées. Et chaque salle, en fait, est rattachée à un thème philosophique ou plutôt à un mythe philosophique, comme par exemple le mythe de la caverne de Platon. Et l'œuvre de Magritte, justement, est rattachée à ces mythes. Donc, par exemple, l'idée du mythe de la caverne, on retrouve l'idée de l'adéquation entre l'objet et sa représentation. Donc, y a-t-il adéquation, justement? Donc, on voit des œuvres comme par exemple La Belle Captive, donc celle de 1950 ou alors un peu plus tôt de 1931. En fait, on voit une toile au sein de la toile. Et ce qui est très intéressant, car on se demande finalement si c'est la toile qui capte la réalité. Donc, cette réalité est-elle vraiment la réalité? Donc voilà, nous retrouvons des réflexions philosophiques. Donc on retrouve les grandes œuvres de Magritte, comme par exemple La trahison des images de 1929, avec la fameuse phrase...
Ceci n'est pas une pipe.
Tout à fait, Florence. Je vois que tu suis. Donc on retrouve tous les thèmes récurrents de Magritte, la porte trouée, les mises en abîme, donc les pipes, les clés, etc. Et chaque thème a un sens, car on retrouve beaucoup de grelots dans ces toiles. Donc, par exemple, qui pose la question est-ce que l'imagination confine à la folie extatique, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une exposition.
C'est pas un peu trop philosophique?
Alors, c'est
est-ce
vrai
qu'il y a un aspect esthétique intéressant ou...
C'est du Magritte, c'est du surréalisme, c'est... Voilà, donc bon, par contre, c'est vrai que cet aspect philosophique peut rebuter certains visiteurs. J'entendais autour de moi des gens qui disaient « on ne comprend pas bien ce qu'il veut dire », etc. Mais pour ceux qui aiment Magritte, allez-y, vous retrouverez Magritte tel qu'on l'aime.
Alors, Museum Site, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Morgane Chimber d'avoir accepté d'être notre invitée pour la première. Merci à vous les filles, Agathe, Marion, Charlotte et Marie-Hélène. Merci aussi à Eric Froquet pour la réalisation. On espère que ça vous a plu et on revient dans un mois avec au programme The Color Line au musée du Quai Branly Jacques Chirac et l'exposition de la poétesse libano-américaine Ethel Annan à l'Institut du Monde Arabe. Vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, sur Facebook à la page MuseumSide et sur Twitter @MuseumSide. See you!
On commence avec le mot du conte de l'autre amant. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassily Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité.